France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
L'archéologie s'intéresse aux vestiges matériels des sociétés humaines. Par cette étude, elle propose d'affiner nos connaissances du passé et analyser notre inscription en tant que société dans l'histoire. Depuis quelques décennies, les sociétés humaines ont constitué des espaces de rencontres immatériels, des mondes virtuels dits persistants, qu'on peut qualifier aussi de métavers, comme le logiciel Second Life, où chaque utilisateur peut vivre, évoluer, interagir et laisser une trace de son passage. On le sait, toute création ou construction humaine peut connaître un déclin, voire une disparition, et ces mondes virtuels ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Dès lors, quelle archéologie peut-on faire de ces métavers abandonnés et que nous disent ces ruines numériques de notre rapport à la mémoire et à l'oubli, ou encore à la valeur que l'on donne à l'intangible? Voilà quelques-unes des très grandes questions auxquelles nous allons réfléchir avec vous. Hortense Boulay-Ifrène, bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes doctorante en recherche création à l'Université Paris 8 et à l'École universitaire de recherche Artec. Votre thèse s'intitule « Monde virtuel en ruine, une approche interdisciplinaire de l'archéologie des médias ». Alors habituellement dans l'entretien archéologique, on s'intéresse à l'archéologie, on va dire classique, celle qui touche aux traces matérielles laissées par les sociétés humaines du passé. Ça implique des objets, des ruines, des structures architecturales, des tombes, bref, toute une variété de preuves tangibles. Or, pour cette émission, on s'est dit qu'on allait faire un petit pas de côté et essayer de comprendre avec vous comment on pouvait proposer une exploration archéologique de mondes virtuels, a priori immatériels, qui sont des témoins des sociétés humaines et qui proposent des ruines d'un genre nouveau. Et on va poser une question ouverte ensemble. L'immatériel proposé par les mondes virtuels peut-il être considéré comme un vestige archéologique? Et on n'apportera pas de réponse, soyez sûrs. Alors, Hortense Boulay-Ifrène, moi je voudrais parler d'abord du cadre théorique dans lequel s'inscrit votre travail de recherche. Je donnais le titre de votre thèse qui parle d'archéologie des médias. Il faut donner une petite spécification. Média s'écrit M-E sans accent, D-I-A sans S. Alors ça m'intrigue. Alors comment vous pourriez définir cette archéologie des médias ?
Alors, l'archéologie des médias, c'est une partie des media studies qui va s'occuper d'exhumer, de remettre dans l'actualité des oubliés des médias qui sont considérés en fait comme des... une histoire parallèle en fait des médias. Le terme archéologie vient de l'archéologie du savoir de Michel Foucault, donc pas l'archéologie disciplinaire comme on l'entend dans cette émission. L'archéologie de Michel Foucault cherche finalement à trouver les généalogies des dispositifs de l'histoire en fait, des objets historiques pour tenter de comprendre comment finalement l'histoire ne s'écrit pas forcément de manière téléologique. Moi, l'archéologie des médias m'intéresse spécifiquement parce qu'elle aussi, elle s'oriente vers la matérialité des médias. C'est-à-dire que il y a énormément de laboratoires dans le monde entier, laboratoires scandinaves. En France, on a un laboratoire pas mal qui va s'occuper justement de redécouvrir la physicalité de ces objets médiatiques en les bidouillant, en les ouvrant, en les réparant et en les réutilisant.
Oui. Alors quand on parle d'archéologie aussi, on pense souvent à des objets très nobles, très impressionnants. Il faut dire aussi que l'archéologie s'intéresse aussi aux rebuts, aux déchets, aux poubelles des humains du passé qui sont souvent porteuses d'histoires et d'informations très précieuses sur des modes d'existence. Est-ce que d'une certaine façon, en vous intéressant, vous, dans votre travail de recherche à ces mondes virtuels, vous vous intéressez à une forme de rebut intellectuel, archéologique d'une certaine façon?
Alors oui, on peut dire ça. L'archéologie des médias, donc, vient dans ma thèse complémenter cette question de la matérialité, puisque vous parliez de d'immatérialité de ces mondes, mais ces mondes ne sont en réalité pas immatériels. Hein. Pour qu'il y ait image à l'écran, il faut qu'il y ait des infrastructures derrière qui puissent porter ces mondes-là. Je m'intéresse aussi à une forme d'archéologie plus métaphorique, puisque finalement les mondes persistants en ligne existent déjà depuis les années 80. Il y a Habitat en 1985. Puis en 1995, Active Worlds, qui est toujours visible aujourd'hui, et en 2003, Second Life, qui est, je pense, le monde persistant le plus connu. Et puis, dans les années, disons, les années 2010 plutôt, ces mondes persistants-là, qui étaient censés être des mondes qui, comment dire, qui réunissent des avatars en ligne, en 3D, ensemble, dans cette volonté quand même de réunir des personnes dans le monde entier à un seul et même endroit virtuel, a été supplantée par les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, comme Facebook, puis ensuite Snapchat, puis ensuite TikTok, etc., pour n'en citer que quelques-uns. Puis ensuite, ces mondes-là, finalement, ont été très vite désertés, très vite abandonnés. Et aujourd'hui, finalement, il y a des archéologues du 21e siècle qui redécouvrent ces mondes persistants-là comme des objets métaphoriquement archéologiques. Et c'est ce qui fait partie finalement de ma thèse de doctorat.
Et on va creuser ça, tout ça ensemble. Alors, on parle de monde persistant, de monde virtuel, de métavers. Je me posais une question, et puis je pense que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément toutes familières avec ces univers-là. Alors, on va déjà distinguer deux grands blocs. Le jeu en ligne multijoueur et le monde persistant. Qu'est-ce qui distingue ces deux univers-là ?
Oui, je pense que c'est important de faire cette distinction. Les MMORPG, donc Multiplayer Online Game, ce sont des jeux avec un but vidéoludique, avec des quêtes,
une narration
très spécifique, alors que les mondes persistants à l'origine sont des formes d'utopie virtuelle dans lesquelles finalement on est invité à faire un peu ce qu'on veut. Donc si on a envie de construire sa maison, on peut construire sa maison. Si on a envie de construire son mall, on peut construire son mall. Si on veut construire son jardin féerique, on peut construire son jardin féerique. Et puis surtout, il y a l'idée finalement de communauté derrière qui est très importante, communauté de réseau. Il y a cette idée de communauté aussi dans les jeux vidéo, dans les MMORPG. Mais c'est vrai que la base finalement formelle de ces mondes persistants, c'est l'idée de créer une communauté en ligne.
Alors on va parler de l'un des archétypes de ces mondes persistants qui est Second Life, mais vous évoquiez les précurseurs de ce genre de monde persistant. Vous parliez d'Habitat en 84-85, ça c'est perturbant, parce qu'on se dit en 84-85, Internet n'existe pas, ou en tout cas le web n'est pas encore développé et n'est pas dans toutes les maisons. Alors, à quoi ça ressemblait ce genre de monde persistant ? Et puis on peut parler des autres qui suivent. Visuellement, ça ressemblait à quoi ?
Alors, Habitat, c'est un monde virtuel qui a été créé par Lucasfilm à l'époque, dirigé par Chip Morningstar. C'est un monde disponible avec une Commodore 64, connecté finalement à son réseau modem Internet, qui ensuite relié, qui envoie l'information, qui est relié à un serveur central, qui s'occupe justement de faire en sorte que deux personnages puissent se retrouver ensemble à l'écran. C'était assez révolutionnaire à l'époque, c'était en deux dimensions, c'était très lent, mais on pouvait
beaucoup de textes aussi, je crois.
Beaucoup de textes, exactement. Les textes apparaissaient sous forme de bulles, donc c'était une sorte de petite BD en deux dimensions. Cette forme-là a été reprise plus tard sur Habbo Hotel, justement. On avait à peu près les mêmes formes, justement. On ne pouvait pas parler, mais seulement des petites bulles s'affichent.
On peut parler aussi d'Active Worlds, qui est l'un des mondes persistants les plus anciens, encore accessible. Il a été créé en 95. Là aussi, deux mots avant qu'on se plonge dans cet univers de Second Life.
Oui, alors Active Worlds a été créé en 1995, mais pour ma part, je m'y suis intéressée, non pas forcément pour l'histoire, mais pour la manière dont aujourd'hui on le redécouvre. Ce monde persistant-là. Il y a énormément de créateurs et créatrices de contenu sur Internet qui retournent dans Active World comme une sorte de curiosité virtuelle. Il y a notamment un YouTuber qui s'appelle Vinesauce, Vinny de Vinesauce, qui est retourné dans Active World et qui a rencontré un avatar du nom de Hitomi Fujiko et qui a créé une sorte de légende, un peu de l'étrangeté sur Internet et qui décrit justement...
Ces ruines, elles sont propices à ces légendes qui circulent beaucoup sur Internet, quoi.
Tout à fait, exactement. Il y a même un YouTuber qui s'appelle Nexpo, qui a redécouvert un monde persistant du nom de world.com, dans lequel il y avait une sorte de culte mystique. Donc c'est effectivement...
C'est l'Atlantide, en fait.
C'est un peu ça.
C'est une forme d'Atlantide.
C'est un peu une forme d'Atlantide.
Alors du coup, on en arrive là à Second Life, donc, qui a été créé en 2003. Aujourd'hui, on pense plus trop à Second Life, mais dans les années 2000, c'était quand même quelque chose d'important pour ces mondes persistants et puis cette expérience collective en ligne. Pourriez-vous, Hortense Boulay-Ifrène, nous rappeler ce qu'est ce projet et l'origine et l'intention de ce projet-là ?
Alors, comme beaucoup des projets de monde persistant, c'est un projet d'utopie virtuelle en ligne dans lequel les créateurs sont... en tout cas les personnes qui ont été à la base de la création sont considérées comme des sortes de demi-dieux qui donnent justement des Prométhées qui donnent le feu à le futur peuple virtuel. Alors Second Life c'est tout simple, au début c'est seulement le sol et un sol virtuel et le ciel et puis des avatars sont venus peupler ce monde-là qui a grandi jusqu'à former des milliers d'îles visibles sur la carte virtuelle et comme je vous disais tout à l'heure, finalement ce sont des personnes qui se réunissent dans des communautés pour créer leur propre utopie, hein, leur utopie située et qui aujourd'hui ressemble à une sorte de grande banlieue américaine.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on y reviendra bien sûr à ce à quoi ça ressemble, mais finalement le créateur de Second Life, Philippe Rosedale, lui avait vraiment pour ambition de pouvoir vivre totalement dans cet univers parallèle. J'évoquais ça, bon, on va en parler tout de suite, mais l'archéologie c'est une science de terrain, alors si on faisait un peu de terrain de Second Life, à quoi, comment vous pourriez décrire ce paysage, cet environnement et la pratique des fouilles que vous réalisez dans cet espace-là?
Alors, plus spécifiquement, dans Second Life, j'ai cherché à créer une sorte de fouille métaphorique, une fouille fictionnelle, dans une île spécifique qui est l'île de Chris Marker, du nom d'ouvroir, qu'il a créé en 2008 avec un artiste du nom de Max Moswitzer.
Donc Chris Marker, le grand cinéaste, documentariste, célèbre pour La Jetée, pour Sans Soleil, voilà, pour tous ces documentaires qui sont très marquants et qui était, lui, complètement fasciné par l'univers numérique.
Oui, tout à fait. Fasciné par l'univers numérique et même il commence dans les années 80 à s'intéresser au code informatique. Il a fait énormément d'installations d'art numérique et à la fin de sa vie, en fait, il s'intéresse justement au monde virtuel qui lui permet ensuite d'être un lieu de réunion. Finalement, il faisait toutes ces réunions dans son île de Second Life qui à l'origine en fait a été créée pour une exposition en Suisse à Zurich et qui plus tard finalement est devenue un terrain d'expérimentation pour de jeunes aventuriers du virtuel qui ont créé dans cette petite parcelle de terrain leur propre monde également. Puis d'autres artistes sont venus tester des scripts, des performances jusqu'à la mort de Marker en 2012 pour laisser finalement ce monde comme une sorte de musée aujourd'hui. Alors c'est pas totalement exact parce qu'il y a encore un avatar qui jusqu'aujourd'hui utilise le ciel de l'ouvroir parce qu'il est possible de voler et donc de construire dans le ciel. Donc l'avatar continue de créer ce monde jusqu'à aujourd'hui. Donc dans mon travail, je l'ai interviewé, on s'est rencontrés, il m'a montré un peu son monde qu'il continue de construire, mais le niveau du sol est occupé par cette partie historique de l'ouvroir qui est aujourd'hui figée dans le temps, alors que à l'origine elle bougeait énormément. Et je me suis attachée donc dans cette archéologie métaphorique à créer un grand inventaire de chaque objet présent dans cette partie historique. Et puis j'ai eu aussi la chance de rencontrer les créateurs et créatrices qui ont été impliqués dans l'ouvroir à l'époque et qui finalement m'ont montré des images et c'est par l'image finalement qu'on retrouve aussi ce à quoi l'ouvroir a pu ressembler.
Alors cet ouvroir, cette île de Chris Marker dans Second Life, c'est un peu pas une anomalie parce qu'il y a plein d'environnements qui sont spectaculaires, originaux, loufoques, etc. Mais vous évoquez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que dans cet univers virtuel, dans ce monde numérique qui est en partie abandonné par ses utilisateurs aujourd'hui, il y a encore un peu de monde qui va dans Second Life, mais voilà, le temps est figé et les gens ont construit finalement une espèce d'annexe du monde qui ressemble, vous le disiez, à une banlieue américaine. On a reconstitué finalement une architecture très sommaire, neutre finalement, dans Second Life.
Oui, tout à fait. Là où on était censé créer une ville temporaire à la Burning Man, par exemple, il est vrai que finalement l'utopie réelle des avatars ressemble effectivement énormément à la maison parfaite de banlieue américaine. Il y a d'autres endroits, évidemment, qui s'éloignent un peu de cette forme-là très spécifique. L'ouvroir en fait partie. Mais effectivement, il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça.
Alors, je disais aussi tout à l'heure, les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément des personnes qui utilisent Second Life. Donc, on parlait de l'abandon aussi progressif de ces mondes virtuels. À quoi ressemble un environnement de Second Life abandonné?
Alors, comme il leur ressemble. Enfin, en fait, finalement, c'est l'architecture sans les avatars, finalement. Le temps est figé. Il y a cet effet, justement, d'horreur, de désertion, qui est plus qu'un effet de ruine. Moi, je travaille autour de la question des ruines. Et qui, du coup, pour moi, la question des ruines a un lien avec les ruines actuelles. Je pense notamment à la pensée de Marc Auger ou de Bruce Bégout sur la question de l'obsolescence des ruines, où, finalement, le mot ruine n'a plus vraiment cours aujourd'hui dans le bâti contemporain, qui ne vieillit plus, où le temps ne passe plus. Et je dirais que dans ma thèse, je tire ce lien-là, ce lien poétique avec ces ruines qui ne sont plus des ruines, mais qui sont des ruines en creux.
Alors là, vous me tendez une perche parfaite, parce que c'était le sens de mes questions qui venaient. C'est, on parle beaucoup de ruines quand on parle d'archéologie. Enfin, on ne parle même pas de ruines, on parle de vestiges, généralement. Oui. Le terme de ruine est encore à part. On va y venir. Mais en tout cas, je voudrais savoir si on peut parler de ruines, justement, pour ces mondes virtuels abandonnés.
Alors, quand on lit, finalement, des historiens des ruines comme Alain Schnapp, Lia Routsos, Sabine Forero-Mendoza, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs pensées des ruines qui s'accumulent. Moi, je dirais que la ruine existe comme un fantôme. La ruine existe en creux, elle n'existe pas réellement en surface, mais comme je disais tout à l'heure, l'archéologie des médias permet aussi d'imaginer et de se concentrer sur les questions de matérialité. Quand je disais que tout à l'heure, pour qu'il y ait surface, il faut qu'il y ait fond aussi. Mmh. On peut considérer que les infrastructures de data centers qui supportent ces mondes virtuels-là sont les ruines actuelles qui, du coup, vont mettre énormément, énormément, énormément de temps à vieillir et à se dégrader.
Mmh. Alors, en plus, il faut rappeler quelque chose, et vous le disiez, c'est un monde où le temps n'a pas de prise, où c'est pas un monde organique, donc finalement, les espaces, une fois qu'ils ont été conçus dans Second Life, ils vont rester tant que le serveur continuera d'exister. Est-ce que ça implique, du coup, nécessairement de repenser même notre rapport aux ruines, à la trace, aux vestiges, cette archéologie des médias que vous pratiquez ?
Oui, je pense que c'est ce que j'essaie en tout cas d'écrire dans ma thèse. Alors évidemment, je suis aussi la pensée de théoricien. Tout à l'heure, je parlais d'Alain Schnapp qui écrit dans sa conclusion de l'histoire universelle des ruines que la ruine se définit finalement sur un spectre à trois niveaux entre nature et culture, mémoire et oubli, matérialité et immatérialité. Et je dirais que si on pousse un peu les curseurs vers ruine culturelle, immatérialité, entre guillemets, j'entends, mémoire oubli, je dirais que là on serait plutôt au milieu, on peut retrouver de la ruine dans ces mondes persistants-là, là où finalement peut-être que le temps long, et ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est Sabine Forero-Mendoza dans un article assez récent d'ailleurs, que le temps long n'est peut-être plus, en tout cas,
un critère
pour définir les ruines.
Alors Alain Schnapp était venu parler au micro de Vincent Charpentier, qu'on salue dans Carbone 14 sur France Culture, de cette histoire universelle des ruines, des origines aux lumières, un livre vraiment passionnant paru aux éditions du Seuil. Et vous le disiez très bien, voilà, il dissociait la ruine du monument, et il disait qu'un poème, un paysage, un rite collectif pouvait être en soi une ruine, et il affirmait que finalement la ruine c'est un processus plus qu'un objet, et que la ruine était aussi une façon de s'inscrire en tant que société dans le temps. Mmh. Alors, question à vraiment qui vaut très cher, mais comment ces ruines virtuelles nous inscrivent, nous, en tant que collectif dans le temps ? Est-ce que voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut étudier ? Comment on peut l'étudier, cette question-là ?
Alors, il y a toute une question au niveau de la préservation, de la conservation de ces mondes-là. Je pense qu'à partir du moment qu'un être humain a passé du temps à construire un endroit, à en faire son endroit à soi, ces lieux ont de l'intérêt. Je pense notamment, alors c'est plus des ruines virtuelles, mais je pense notamment aux skyblogs qui ont été conservés par l'INA et la BNF très récemment, qui sont des traces de notre adolescence sur Internet, enfin une partie de l'adolescence des Français sur Internet, dont je fais partie d'ailleurs. Donc je pense effectivement que ces mondes virtuels-là ont tout intérêt à être archivés, à être documentés. Alors il y a déjà eu des personnes, des universitaires qui ont tenté justement de garder une trace de ces mondes-là, des traces du hardware. Des traces, mais en fait finalement garder une trace conserver ces mondes-là en l'état, c'est très difficile. c'est très difficile parce qu'en fait, finalement, on se confronte aussi au fait que, oui, on parle d'avatar, c'est nous qui construisons, mais ce monde appartient à des entreprises privées. Et ce sont ces entreprises privées-là qui détiennent le code, qui détiennent les structures et les infrastructures de conservation. Donc, c'est très difficile pour une institution culturelle
de les garder, de les conserver.
Exactement. Donc, ce que j'essaie aussi de développer dans ma thèse, mais ce que plein d'artistes ont essayé de faire aussi, c'est de documenter ces ruines-là, de documenter ces vestiges virtuels par le film, par la photographie, par l'installation, pour tenter finalement de garder une mémoire située de ces mondes-là.
Alain Schnapp, il s'interrogeait aussi dans son livre sur l'effacement des ruines, qu'il soit volontaire ou bien le fait du temps et de l'érosion du temps. Là, on va parler de l'effacement de ces mondes virtuels qui peut être soudain, brutal. Qu'est-ce qui se passe quand un monde virtuel disparaît? Parce que Second Life existe encore, mais il y en a d'autres. Par exemple, je pense à Allspace VR, qui avait été inauguré en 2013 et puis qui a été fermé par Microsoft en 2023, si je dis pas de bêtises. Ça se passe comment, la fin d'un monde virtuel?
Alors, j'ai eu la chance de documenter cette fin d'Allspace VR. Donc au début, après l'annonce de Microsoft de fermeture de ce monde-là, je me suis dit que bon, c'était le moment où je commençais ma thèse, donc je me suis dit ok, je mets tout à côté pour aller dans ce monde, pouvoir documenter justement cette fin. Au début, c'était une documentation photographique, puis ensuite je suis vite passée au film pour pouvoir rencontrer des avatars, pour pouvoir capturer des décors de ce monde-là avant cette fermeture. Et je dirais qu'il y a une grande dimension spéculative hein, de comment ça va se passer, comment ça ferme un monde virtuel. Il y a quelque chose de très fascinant à se poser cette question, je pense, où finalement, en parallèle du fait de rencontrer des gens, on se pose cette question d'est-ce qu'il va y avoir un message d'erreur ou est-ce que le monde va tomber physiquement en ruine. Il y a un film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel.
It's the Night,
ouais. Exactement. Qui est dédié justement à la relation d'un frère et d'une sœur pendant la fermeture du monde virtuel qui les a accueillis et auquel ils sont extrêmement attachés. Donc cette zone d'attachement-là, elle est très importante aussi à documenter, je pense. Je spoil un peu la fin du monde virtuel, mais disons que voilà, alors il y a eu plein de fêtes, d'événements pour la fermeture de ce monde-là, mais Allspace VR a été fermé simplement par un message d'erreur. C'est très déceptif.
Hein. C'est anti-spectaculaire au possible.
C'est anti-spectaculaire au possible. Mais d'ailleurs, Microsoft n'a même pas daigné créer un événement autour de ça, enfin en tout cas en faire quelque chose.
Ils ont dit qu'ils ne garderaient aucune archive de ce passé, de ce monde virtuel-là.
Exactement, il n'y a aucune archive, à part on pouvait télécharger ses photos et un fichier Excel avec tous ses contacts virtuels et ses messages, mais c'est tout. On ne pouvait pas créer, enfin on ne pouvait pas télécharger les mondes qu'on a créés. Alors il y a des personnes qui ont un peu hacké le système, qui ont créé une manière d'absorber je ne dirais pas le nom, mais une manière d'absorber ses propres mondes pour en garder une trace et ensuite les re-télécharger vers d'autres mondes virtuels.
Alors, il y a aussi un phénomène qu'il faut souligner, c'est que c'est des moments généralement poignants pour les utilisateurs qui sont constitués des avatars et finalement une existence un peu parallèle dans ces mondes virtuels. Ça aussi, vous l'avez constaté dans votre travail de recherche.
Oui, tout à fait. J'ai eu des avatars qui pleuraient. J'ai beaucoup suivi le passage d'un monde virtuel à un autre, d'une communauté d'avatars, mais qui se retrouvait finalement sans rien. Il faut savoir que Allspace VR, comme beaucoup de mondes persistants, est occupé par des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ne peuvent pas, qui sont très isolées. Ça aussi été un moment où, pendant le Covid, c'est un endroit qui permettait à des personnes de se retrouver, et donc ne plus avoir justement cet endroit de rencontre, c'était terrible.
Alors ces mondes, on les dit, persistants, on constate qu'ils ne sont pas si persistants que ça, puisqu'ils peuvent fermer du jour au lendemain. Il faut aussi dire aussi que au milieu des années 2000, enfin vers 2004-2005, à partir du moment de la croissance des gros réseaux sociaux comme Facebook, ils ont aussi pris du plomb dans l'aile. Là aussi, il y a eu une concurrence. Qu'est-ce qui s'est perdu des mondes virtuels avec l'émergence des réseaux sociaux?
Ce qui s'est perdu, c'est un nombre d'avatars. Je dirais que les réseaux sociaux permettent plus ou moins la même chose que les mondes virtuels, hein, pas du tout dans les mêmes formes, mais ça permet de se retrouver en ligne. La dimension communautaire, on la retrouve sur Facebook, à visage découvert cette fois, mais en fait, ça permet de garder contact avec les personnes qu'on aime, et c'est plus facile d'utilisation aussi. Je pense que entrer dans Second Life, se faire la main, avoir un ordinateur qui fonctionne correctement à l'époque, pour pouvoir afficher des graphismes quand même assez lourds, c'était compliqué. Alors, cette utopie des mondes virtuels est revenue quand même il y a quelques années avec ce projet de Zuckerberg.
Meta, le métavers de Facebook à l'époque qui ne s'appelait pas encore Meta, qui a fait beaucoup rire tout le monde puisque c'était pas très très beau.
Effectivement. Qui est en fait finalement une ruine instantanée un peu, hein, parce que ça a été un grand... ça n'avait pas du tout été un succès. Et alors que Meta a mis des milliards d'euros dans la refonte de Facebook en Meta, dans des super calculateurs qui étaient censés être utilisés pour le métavers, mais qui aujourd'hui sont utilisés pour l'intelligence artificielle. Et du coup, effectivement, disons qu'il y a une boucle temporelle qui se crée aussi. Facebook a remplacé Second Life. Meta est tenté de remplacer Facebook.
Dans ce que vous dites, Hortense Boulay-Ifrane, là, à l'instant, vous dites ça a été une ruine instantanée. Et je me dis, bah, finalement, est-ce que notre capacité à créer des ruines, puisque vous le disiez tout à l'heure, architecturalement, on crée plus trop de ruines, on recycle, on... Voilà. Cette capacité qu'a l'humanité à créer des ruines, est-ce qu'on l'a transposée dans le monde virtuel et est-ce qu'on s'amuse, finalement, à créer des ruines faciles à créer, à oublier dans l'espace virtuel?
Alors, c'est une question assez intéressante. Et, mais alors, je pense que la ruine, elle vient d'elle-même. En soi, si on considère que la ruine, c'est un processus entre un bâtiment debout et son extinction totale, les mondes persistants, c'est soit l'un, soit l'autre. Les curseurs sont vraiment poussés, enfin, la dimension temporelle est vraiment poussée au niveau de l'instantanéité, hein, au niveau du présent, finalement. Et je pense que ça nous parle aussi beaucoup de ce que François Hartog appelle notre régime d'historicité présentiste. Régime d'historicité présentiste se définit par le fait que finalement le passé n'éclaire plus le présent et le futur est un peu, disons, bloqué. On ne peut pas vraiment imaginer le futur et on est bloqué dans de présent permanent, de présent plastifié. Et je dirais que ces mondes virtuels, ces ruines d'utopie nous parlent énormément finalement, de ce monde figé des années 90, figé dans le plastique.
Et ces ruines virtuelles, elles nous obligent aussi à faire une nouvelle archéologie, peut-être une archéologie du présent, moins matérialiste, moins concentrée sur l'objet palpable, mais sur la façon qu'on a d'occuper et d'habiter ces espaces virtuels. En tout cas, on a hâte de lire le résultat de votre travail de thèse, et puis on a hâte de lire votre manuel d'archéologie des médias.
Merci.
Merci beaucoup à vous, Hortense Boulay-Ifrane, d'être venue nous parler d'archéologie des mondes virtuels. Notre émission touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Edouard Rubinstein aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.